Julie Manoukian, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernier film, Haut les mains, qui sort le 12 février. Alors, quand on écrit et réalise un film sur le militantisme, est-ce qu'on a soi-même une âme d'activiste ?
Alors, une âme peut-être, en tout cas beaucoup de respect pour les activistes. Je ne peux pas réclamer le crédit d'en être une moi-même parce que je n'ai jamais consacré mon temps personnel à une cause, comme le font les militants. J'ai que du respect pour eux. Mais moi, je me contente d'écrire des histoires.
Alors, le personnage principal, si on peut dire, c'est un groupuscule, Green Panther. C'est un beau clin d'œil au Black Panther et à Angela Davis, qui ne suivit pas tout à fait la philosophie des Black Panthers, puisque eux, c'était, ils prenaient la légitime défense armée. C'est finalement un peu le dilemme de tout militant, non ?
Oui, oui, et puis c'est un dilemme qui revient, hein, que chaque génération se pose et se repose et s'écharpe autour de cette question. Les Green Panthers, c'est un nom et un groupe qu'avait posé l'auteur originel du scénario, qui est Jean-Marcel R. Moi, j'ai eu la chance de recevoir son scénario, dans lequel existaient Olympe, Zora et Simon, et il avait posé ce nom-là, et je m'en suis délectée. Et ça fait partie des références de Jean-Marcel aussi, qui a un pied dans les années 70.
Ah, ça doit être ça, alors. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a le YMCA, Village People, qui vont être invités à l'investiture.
Alors voilà. Le YMCA, il est arrivé assez tard dans la post-production. Moi, j'aimais beaucoup l'idée de jouer avec la masculinité.
4 ans après la sortie du disque, finalement.
J'ai pas pu y échapper, hein, comme tout le monde. Et au moment où j'ai choisi ce morceau pour cette scène avec Kramer, et ça me faisait beaucoup rire que Kramer soit fan de YMCA, je savais que ce morceau plaisait à Donald Trump. Je me doutais pas que le groupe allait l'embrasser. Mais quelque part, ça correspond à Kramer. Je suis juste un peu contrariée qu'on les finance, du coup. Mais en même temps, c'est pas incohérent.
Et parce qu'ils ont gagné, paraît-il, plusieurs millions depuis la ressortie, en tout cas. On peut quand même se poser la question de savoir de sont légitimes Action Directe et Just Stop Oil, non ?
Moi, il me semble que... Enfin, comment dire ? Encore une fois, j'ai énormément de respect pour les gens qui mettent leur corps entre le danger et une cause ou un univers qu'ils cherchent à protéger, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et là, on parle, en l'occurrence, de gens de tous les âges. Puisqu'il y a des ados jusqu'à des grands-parents qui n'arrivent plus à faire comme si de rien n'était. Je les comprends. Moi, j'ai, à ma très modeste mesure, j'ai essayé d'écrire un scénario après les vétos qui parlait de déforestation. Et à force de recherche, avec ce truc des algorithmes qui vous balancent la même info en boucle, j'ai fait une éco-anxiété. Et c'est vrai qu'il y a un moment quand on est... quand on prend, en fait, conscience de l'ampleur des dégâts, c'est très difficile de vivre cette dissonance cognitive, comme on dit, puisque tout dans notre mode de vie pose problème, et en même temps, par où commencer.
Ouais.
Donc je comprends et je respecte les gens qui décident d'agir sans attendre qu'on leur en donne l'autorisation.
Vous parlez de Greenpeace, une des candidates justement dit hein, « je supporte plus leur inefficacité ». Enfin, quand on voit quand même Paul Watson, il s'est quand même retrouvé dans une drôle de situation.
Oui, Paul Watson, il était parti pour ces raisons-là, et il est allé très loin tout seul. Et puis après, Paul Watson, il y a des choses compliquées à son sujet aussi, tout n'est pas rose. Mais après, l'idée, c'est que les panthères, faisant ce qu'elles font, de fait, se portent hors du terrain du militantisme et de l'éducation ou de la réflexion sociale. Ils veulent passer à l'action. Donc fatalement, c'est des gens déçus par des modes de réflexion plus lents qui vont attirer. Ça ne veut pas dire que Jean-Marcel et moi, on cautionne complètement ce qu'on ferait, mais ça m'a paru tomber sous le sens que parmi les gens prêts à prendre des risques, ils attirent... Moi, ce qui me faisait rire avec le personnage de la désillusionnée de Greenpeace, au-delà de ça, c'est l'idée qu'aujourd'hui, et on le voit partout, les manifestations pacifiques et non violentes sont souvent réprimées avec pas mal de violence, et elle, c'est ça dont elle parle. Quitte à passer la nuit au poste, autant qu'on ait le temps de faire un truc avant, quoi.
Alors, dans les clins d'œil, J'ai bien aimé, à l'invitation de la conférence de presse, Emma Goodman et Louise Michel, les deux anarchistes du 19e, c'est pas mal quand même.
Oui, ça, c'était mon petit joke. Je me suis amusée avec ça, c'est vrai.
Alors, dans les autres références, le grand méchant, c'est Michel David Ravalek et sa fondation MDR. MDR est arrivé après Ravalek, ou c'est Ravalek qu'on a rajouté comme nom pour faire le jeu de mots?
Ravalek, c'est venu tout de suite dans la bouche de Jean Marcel. En fait, Jean Marcel avait écrit un scénario dans lequel ce personnage n'existait pas. Quand il a accepté qu'on le reprenne ensemble pour que je le réalise, on a décidé de changer l'objectif des Panthères et de leur trouver un autre antagoniste. Et on a créé ensemble ce personnage, et c'est lui qui a posé ce nom, parce que c'est comme ça, c'est son humour.
Le mort de rire, c'est du Groland, quoi.
Voilà, exactement. C'est une patte. Et j'ai dit OK.
C'est vrai que c'est pas mal. Alors, référence aussi de Ravalek, on ne peut pas éviter, c'est Nicolas Hulot,
Huchère. Bon, en tout cas, il est à la croisée de plusieurs personnages médiatiques français, disons, et puis il incarne la réalité avérée du greenwashing, et aussi le fait que, malheureusement, à certains endroits de pouvoir, les violences, elles se font, elles sont globales. Que les hommes et parfois des femmes à qui on donne beaucoup de pouvoir et d'espace médiatique finissent par faire des choses pas terribles avec.
C'est finalement bon. Donc lui, il est quand même devenu ministre. Il y en a un qui a failli l'être, c'est comme Bendit, qui aussi est à la limite, hein, et qui sert un petit peu de référence par rapport à votre sujet, quand même.
Oui, c'est vrai que, enfin, comment dire, en fait, le problème du greenwashing spécifiquement, et puis du récit autour de on a trouvé la solution, ou si vous donnez à cette fondation, alors le monde sera sauvé, c'est que ça fait perdre un temps terrible qu'on n'a pas. C'est cette illusion qu'on donne au public que c'est plus la peine de s'inquiéter, et ça, c'est presque pire que l'inaction, quelque part, parce que ça fait prendre 20 ans de retard, quoi.
Enfin, il y a aussi, pour les deux personnes citées, le problème avec la justice et qui rejoignent un petit peu le cas Ravalek, quand même, aussi. Hein.
Oui, c'est cet imbroglio politico-médiatique assez redoutable qui nous amène à des temps troublés, il semblerait.
En période de wokisme, est-ce qu'on peut vraiment encore tout dire? Est-ce qu'il n'y a pas certains messages qu'on est obligé de retenir, et notamment, encore une fois, dans votre cas?
Je pense que ce n'est pas tant une histoire de message que de forme et de à qui on parle. C'est-à-dire que selon le ton qu'on a envie d'épouser et les gens auxquels on a envie, avec lesquels on a envie de créer une connexion, on choisit comment... ce qu'on met de nous, et on voilà, on donne pas tout indifféremment à tout le monde. Moi, quand j'ai reçu ce scénario, je l'ai trouvé juste très drôle, et j'ai adoré ce que Jean-Marcel en avait fait. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se prennent pas au sérieux, et qu'il y avait la possibilité pour moi de rire avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Donc c'était ça, à partir de là, c'était ça le cap pour moi, c'était de s'attacher au personnage. Sans que le film tombe dans du didactisme ou dans une leçon de choses, et que si on arrive à rire avec Bernard et avec Olympe, Simon et Zora, ce qu'ils font, c'est un bonus presque.
Alors, en tant que scénariste et réalisatrice, on peut dire que vous êtes devenue spécialiste de la confrontation des mondes opposés. À savoir, bon, Cœur de rocker, le film de Dida Teicher, la rockeuse et les petits vieux de leur chorale, Un petit miracle, les enfants et les retraités, Veto, le rat des villes et le rat des champs, c'est une prémisse, enfin des prémisses que vous mettez dès le départ, et puis vous imaginez toute une histoire autour, ou au contraire, ça vient se greffer dans l'écriture?
Alors, je ne m'étais jamais fait cette réflexion, donc la réponse est là. C'est complètement inconscient. Je pense qu'il y a quelque chose...
Mais c'est vrai, quand vous analysez...
Ouais, c'est marrant. Oui, y compris là, dans l'unitaire que je viens de faire, avec deux opposés qui se rencontrent. Et je pense que ce qui doit me plaire là-dedans, parce que moi j'écris du haut de mes 8 ans, de petites filles qui cherchent une connexion, en fait, avec des gens, et à créer du lien et à sortir d'une solitude, on va dire. Donc je crois que ce qui me plaît, c'est l'idée que des gens qui n'étaient pas destinés à s'entendre se trouvent. C'est assez naïf, mais voilà, c'est ma petite part de tendresse.
Ida, vous la remerciez. Quelle a été sa contribution ?
Ida, Marie-Sylvie, qui a monté le film, et moi, Marie avait travaillé sur mon premier film. Elle a aussi monté Cœur de Rocker, donc on se connaît toutes les trois depuis un certain nombre d'années. Et donc Marie et moi, on a fait venir Ida pour qu'elle voie le film quand il était encore en travail. Et elle nous a permis de faire un bond dans le montage.
Ouais. À quel
elle
n'avait
pas lu le scénario, donc elle avait une distance avec l'histoire. Mmh. Elle ne savait pas les deuils que moi j'avais fait, ce que je n'avais pas réussi à faire, ce que j'aurais voulu faire, des choses contre lesquelles moi je butais encore. Et elle nous a aidés à faire des coupes nécessaires. Elle nous a dit ce qui la faisait rire ou pas. Et voilà, comme on a une sensibilité commune, ça voulait dire quelque chose, quoi. Donc c'est une des rares spectatrices de ce film avant qu'il ait été fini. Et pour le coup, c'est celle qui nous a le plus fait progresser.
Ah, je me doute. Le clip du début. Dès le départ, vous saviez que vous alliez commencer, parce que tout est dit. Vous saviez que vous alliez commencer comme ça ?
Alors, dans le scénario que j'ai reçu, la toute première version, il était là. C'était la scène qui ouvrait le film.
Parce que c'est vrai que c'est
et
clair.
Et ensuite, on l'a bougé. On l'a pas complètement assumé. On l'a baladé. On est parti avec une version de tournage dans laquelle il intervenait plus tard, et au montage, il a retrouvé sa place.
Myriam Boyer, expliquez-nous.
Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'était une magnifique idée de Yves Marmion, le producteur du film, qui a aussi produit Cœur de Rocker, et qui a pensé à elle tout de suite, puisqu'il venait de travailler avec elle. Moi, j'avais eu la chance de travailler avec son fils, mais j'étais très très heureuse qu'elle nous fasse...
son numéro, ouais, son show.
Qu'elle nous fasse ce petit cadeau.
Alors bon, parlons quand même des deux comédiens principaux. Comment sont-ils arrivés dans l'aventure ?
Émilie, je l'avais rencontrée au moment de faire les vétos. On avait failli travailler ensemble et ça ne s'était pas fait sur un problème de planning. Mais du coup, je l'avais là, pas très loin. J'ai été ravie de la retrouver. Et puis surtout qu'elle s'empare du personnage d'Olympe en essayant pas de l'adoucir. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite acheté le scénario tel qu'il était écrit, ce qui n'aurait pas forcément été le cas de tout le monde. Mmh. Et puis Vincent, pour moi, bah, c'est Chabert, hein. C'est le péril jeune, et c'est de la tendresse et l'humour, et ce côté cancre qui va tellement bien à Bernard. Donc il y avait une forme d'évidence dans le Bernard que j'imaginais. En plus, il lui amène une petite flamboyance personnelle qui n'était pas forcément prévue au scénario et qui fait plutôt du bien au film.
Mais c'est vrai que l'âge le change quand même, non ?
Oui, oui, oui. Bernard, il était écrit pour être un peu plus âgé. Ah. Vincent a rajeuni le personnage.
En bien d'ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et en même temps, il lui donne, je trouve, quelque chose d'assez intemporel avec son look aussi, à la fois son air de beau gosse et en même temps ses vieilles charentaises, et puis le lapin de sa femme, et puis.
À la totale.
Il est à la croisée de pas mal d'univers.
Pour une scénariste, il y a de l'impro ?
Oui, alors il y a de l'impro si les comédiens connaissent le texte. C'est-à-dire que si tout le monde connaît parfaitement le texte et que tout le monde sait de quoi on parle et quelle est l'intention, à partir de là, on peut changer. Parce que c'est pas les mots qui comptent nécessairement, c'est les intentions. Mais par contre, si le texte est mal tu ou approximatif, l'impro marche pas parce qu'elle est à côté.
Vous êtes dur.
Bah, je crois que c'est le métier des comédiens aussi, de connaître leur texte. Et c'est vrai que moi, je leur dis, on pourra toujours faire de l'impro du moment que le texte est su. Et pour le coup, je suis vraiment preneuse de l'impro. J'adore ça. Mais voilà, il faut qu'on sache de quoi on parle.
Des deux, entre Émilie et Vincent, quel est celui qui...
Plus d'impro ? Ouais. Je dirais que c'était à parts égales. Vincent en fait quand même plus. Ça déborde un peu plus. mais Émilie, on a fait des
dur à couper.
Chouettes. Ouais, c'est du travail. Disons que voilà, monteuse, c'est un métier. Émilie nous en a fait des très chouettes, plus cadrées, on va dire. Avec des fins de séquence, des petites sorties de route maîtrisées que j'étais ravie de garder.
Je lui dis un grand merci. Donc, on rappelle Haut les mains qui sort le 12 février. Merci beaucoup.
Merci à vous.